Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Il s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa, le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Occasion pour Félix-Antoine Tshisekedi d'être consacré président de la SADC pour 2022-2023, ce qui explique sa rencontre hier avec le chef de l'État du Malawi, président sortant de la SADC. Vous souffrez de la cataracte ou vous connaissez des gens qui en souffrent? Bienvenue à la campagne de chirurgie ophtalmologique lancée à Kinshasa. Les opérations sont gratuites et ce, dès le 21 août 2022, à l'hôpital Monkolé, annonce le ministre de la Santé publique. Et puis, le député Prince Kiangi dénonce un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire dans le territoire de Walikale au Nord Kivu. L'élu de Walikale plaide pour l'implication des autorités compétentes. Il est notre invité ce matin. Madame, Messieurs, bonjour. Le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, s'ouvre ce mercredi à Kinshasa. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu hier dans la soirée autour d'un banquet à la Cité de l'Union africaine une dizaine des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de cette communauté. Au cours de ce 42e sommet, le chef de l'État congolais sera consacré président de la SADC pour l'exercice 2022-2023. C'est dans cette optique que Lazarus Chakwera, chef de l'État du Malawi et président sortant de la Communauté de développement de l'Afrique australe, a échangé en tête-à-tête avec Félix-Antoine Tshisekedi hier dans la journée à la Cité de l'Union africaine. D'autres détails avec Billy Van Lutumba.
Lazarus Chakwera fait part à la presse de la mise sur pied dans les tout prochains jours d'une commission mixte en charge d'analyse pour la faisabilité d'un ambitieux projet entre le Malawi et la RDC. Il s'agit de la construction des voies routières et ferroviaires dans le but d'établir des échanges commerciaux entre la RDC et l'Afrique australe, particulièrement son pays. Ceci passera par la suppression des visas pour permettre l'intégration des deux peuples. De son côté, Félix Tshisekedi, désormais dès ce mercredi, président en exercice de la SADC, a témoigné sa reconnaissance au Malawi pour son soutien contre l'agression dont est victime la RDC et surtout de l'apport de l'armée malawite qui participe à la brigade d'intervention rapide à côté de la Zambie et de la Tanzanie. Ce 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement a pour thème « Promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agro-industrie, de l'enrichissement des minéraux et des chaînes de valeur régionales pour une croissance économique résiliente ». Le dimanche 14 août, près de 50 membres des gouvernements des pays de la SADC ont clôturé la réunion ministérielle axée sur les différents aspects liés au thème de ce sommet et la préparation de l'ordre du jour des chefs d'État et de gouvernement. Ces travaux du 42e sommet seront marqués par le discours du président entrant de la SADC, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de l'ouverture solennelle dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Les travaux à huis clos se tiendront dans la suite, dans la salle des banquets.
Et sachez que cela fait 25 ans que la RDC a adhéré à ce bloc sous-régional. À cet effet, Ngoï Tshibambe Germain, professeur ordinaire à l'université de Lubumbashi et expert en relations internationales, dresse ici un bilan de l'appartenance de la RDC à la SADC. On l'écoute dans ses propos recueillis par Cynthia Bachizi.
Sur le plan diplomatique, dans les années passées, l'Afrique du Sud, qui est pratiquement un pays hégémon dans cet espace, se soit préoccupé pour nous accompagner dans l'installation, l'implantation et le fonctionnement de l'académie diplomatique basée à Kinshasa. Alors, le deuxième aspect de la programmation et de la diffusion des bonnes pratiques concerne le bénéfice par nous acquis dans le fonctionnement dans les services de migration. Ce sont des effets induits qui conduisaient à ce que cette organisation en arrive à demander au gouvernement d'améliorer le fonctionnement des migrations pour faciliter la libre circulation. Le deuxième point concerne la question du développement. Cette question est vaste. Mais je voudrais vous dire, mais il faut reconnaître que les Sud-Africains se sont intéressés à notre économie, l'économie dans laquelle ils se sont investis. Je peux citer, entre autres, les investissements sud-africains dans le secteur minier, tel qu'on le voit ici au Canada, au Katanga. Mais il y a aussi un autre grand projet dont l'exécution pourra se faire dans un avenir proche. C'est sur le barrage d'Inga 3.
Pendant ce temps, les combats se sont poursuivis toute la journée d'hier dans les groupements de Jomba et Bweza, territoire de Rutshuru, entre les FARDC et les rebelles du M23, appuyés selon l'armée par les forces rwandaises. Certaines sources dans la région parlent d'au moins 3 civils tués et 5 autres blessés par un obus qui aurait été tiré par les rebelles dans le village Tchankere et Rangira, localité de Rwanguba. C'est ce qui a créé la panique dans cette zone qui s'est vidée de ses habitants. Le porte-parole des opérations Sokola 2, qui confirme l'information, déplore la violation de la traite trêve par les rebelles. On écoute le lieutenant-colonel Guillaume Njikekaiko.
Effectivement, vers 3h20 du matin de ce mardi 16 août, trois de nos positions se trouvant à Rwanguba, Rangira et Muhibira ont été attaquées simultanément par le M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise en violation de la trêve imposée par les sommets des chefs d'État de Nairobi dans le cadre, bien évidemment, de l'East African Community. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que à l'heure actuelle, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent professionnellement toutes ces positions et contiennent l'ennemi dans ses positions initiales. Il est vrai qu'au regard des tirs aveugles de l'ennemi, la population devait se mettre à l'abri de ces tirs et voilà pourquoi il y a eu ce mouvement de population.
Selon la société civile de Jomba et Kisigari, la situation est inquiétante dans cette partie du territoire de Rutshuru, surtout pour la population civile qui vit dans une incertitude permanente. De son côté, la coordination de la société civile du territoire de Rutshuru dresse un bilan sombre des 2 mois d'occupation par le M23 de plusieurs zones de cette entité. Au cours d'une conférence de presse lundi à Rutshuru, le président de cette structure citoyenne a affirmé que la situation n'est fait que s'est dégradée sur le plan sécuritaire et humanitaire dans tout le territoire. Jean-Claude Bambazé appelle à une mobilisation nationale et internationale pour y mettre un terme. On l'écoute.
Sur le plan humanitaire, la situation est vraiment catastrophique. Au-delà d'une centaine de milliers de déplacés que nous avons dans le territoire, en y ajoutant des milliers qui sont réfugiés en Ouganda et vivent dans des conditions inhumaines. Il y a eu beaucoup de morts à Ruseke, à Kabindi. Il y a eu beaucoup de morts du côté de Tchéa, à Biruma, des jeunes gens étaient victimes des bombes lancées par le M23. Il y a eu d'autres dégâts, notamment destruction des écoles, des pillages systématiques des maisons partout où ils sont. Les biens sont emportés par ces assaillants vers l'Ouganda et le Rwanda. Les centres de santé ont été sérieusement pillés. Il faut dire que la situation est très très grave. De telle sorte que, si rien n'est fait, en tout cas, c'est vraiment une catastrophe qu'on est en train de vivre.
Fustigeant la trêve observée par les FARDC dans la zone des combats alors qu'à plusieurs reprises elles subissent les attaques des rebelles du M23, la société civile annonce qu'elle va lancer incessamment des actions de pression sur le gouvernement pour obtenir la stabilité dans la zone. Du côté de l'Ituri, la milice Codeco a tué 17 personnes au cours d'une attaque hier du site minier de Waya, territoire de Djougou. Plusieurs autres personnes ont été blessées. Les assaillants ont également emporté des biens de la population. Avant que l'armée n'intervienne, ils ont eu le temps de se replier dans leur bastion de Bakombe. L'attaque est confirmée par plusieurs sources, dont les chefs coutumiers, les services de sécurité ainsi que la société civile locale. Du côté des autorités, le porte-parole de l'armée n'a pas encore donné les détails de cette attaque. Voici ce que Ezekiel Mousalia nous disait hier à propos de cette attaque.
D'après les services de sécurité, c'est vers 5h30 du matin que des miliciens ont attaqué ces chantiers d'exploitation d'or situés à environ 8 km de Nizi Centre. Première cible, la position militaire des FARDC commise à la garde de ces sites. Ici, affirment nos sources, 4 militaires ont perdu la vie et leurs armes emportées. Dans leur avancée, ajoutent les chefs de chefferie de Mambisa, ces malfrats ont tué 13 personnes, dont 4 femmes. Quant aux blessés, ils seraient au nombre de 4, précise une source de sécurité. L'un parmi ces blessés, grièvement touché, a été acheminé dans une formation médicale de la place. Avant de s'enfuir, ces miliciens ont saccagé des équipements qui servaient à l'exploitation de l'or sur ces sites. C'est ce que déclare la société civile du territoire de Djougou. D'autres biens, notamment de l'or, des motopompes ainsi que des générateurs, ont été emportés par ces hommes armés. Les populations des villages environnants ont toutes quitté la zone. Toutes nos tentatives pour recueillir la réaction du porte-parole de l'armée en Ituri n'ont pas abouti. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans le sommaire, une campagne de chirurgie ophtalmologique pour la prise en charge gratuite des patients souffrant de la cataracte vient d'être lancée à Kinshasa. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui vient de faire cette annonce, précise que les opérations se réaliseront à partir du 21 août prochain à l'hôpital Mankole de Kinshasa. Docteur Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé publique, en parle au micro de Guy Matetsongo.
Chers compatriotes, sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, en collaboration avec la Fondation Christine Bahati et la Fondation Barakaire, j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement d'une campagne de chirurgie ophtalmologique pour la prise en charge des patients souffrant de la cataracte. Veuillez vous rendre à l'hôpital Moncollet dès aujourd'hui pour vous enregistrer. Les opérations vont se réaliser à partir du 21 août jusqu'au 27 août 2022. Votre ministère a pris toutes les dispositions nécessaires pour que la prise en charge des patients soit totalement gratuite.
Entre-temps, au Nord Kivu, les mauvaises conditions hygiéniques, l'absence d'infrastructures, d'accès à l'eau potable sont entre autres facteurs qui justifient la récurrence des maladies diarrhéiques dans plusieurs zones de santé, notamment la localité de Ntoto dans le territoire de Walikale. Le chef de division provinciale de la santé dit reconnaître la pertinence de ce problème et assure que le système de surveillance est actif pour faire face à cette situation endémique. Janvier Kubuya affirme que la solution durable serait de faciliter l'accès à l'eau aux populations, mais aussi la sensibiliser au respect des mesures hygiéniques. Donna Madimbambaya nous fait le point.
La zone de santé de Kibwa, en territoire de Walikale, a enregistré depuis juillet 64 cas de diarrhée dans les structures locales de Ntoto, avec au moins 7 décès, dont 3 communautaires. Bien que le problème soit général, la localité de Ntoto est plus affectée à cause de son enclavement, explique Dr Janvier Kubuya.
C'est un problème auquel nous sommes en train de répondre depuis le mois de juillet, je dirais d'ailleurs depuis quasi toute l'année, et évidemment pour sensibiliser nos communautés, pour les responsabiliser, parce que nous savons pourquoi il y a ces cas de diarrhée dans cette zone. C'est essentiellement parce que les conditions d'hygiène restent à désirer. C'est des zones, des villages qui n'ont pas de source d'eau potable. Nous avons déjà déploré 7 décès. C'est essentiellement des enfants âgés de moins de 5 ans.
Pour sa part, le Forum des ONG nationales humanitaires, FONRA dans sigle, dit avoir apporté la semaine dernière une assistance d'urgence aux structures sanitaires locales de Ntoto pour faire face à cette situation. Il s'agit notamment de 20 cartons contenant 600 bouteilles de sérum lactate, mais aussi des intrants et médicaments essentiels. C'est grâce aux contributions récoltées après un appel à mobilisation des fonds.
Et puis, outiller le personnel de santé dans la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë et sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, c'est l'objectif d'un atelier de formation organisé à Kenge dans la province du Kwango par le Programme national de nutrition Pronanut en partenariat avec ADRA. Selon Baudouin Bikakala, coordonnateur du Pronanut, à l'issue de cette formation qui va du 15 au 22 août, les apprenants seront en mesure de s'attaquer à la malnutrition aiguë qui sévit surtout chez les enfants de cette province. Toujours d'après lui, tous les intrants sont déjà disponibles pour cette prise en charge. Irène Boma.
Au total, 66 prestataires de santé prennent part à cette formation de 7 jours. Il s'agit entre autres des infirmiers titulaires de toutes les 29 aires de santé de la zone de santé de Kenge, ainsi que leurs nutritionnistes. Selon les coordonnateurs du Pronanit Kwango, l'un des facilitateurs, 5 jours sont prévus pour le module sur la PESIMA qui signifie prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë, et les 2 derniers jours sont réservés à l'ange, alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Les nutritionnistes Baudouin Bikakala indique que l'objectif est d'outiller les participants en vue d'une bonne prise en charge de la malnutrition sévère et modérée qui bat son plein dans la province du Kwango.
Ils vont prendre les enfants en charge pendant 6 mois, les enfants de 0 à 59 mois. Donc ils doivent être formés. Les intrants sont disponibles, ils ont le plan pinat, le plan soupe. C'est gratuit. Quand les partenaires partent, il n'y a plus d'intrants. C'est pourquoi il faut que le gouvernement provincial s'investisse dans l'agriculture, dans l'élevage pour lutter contre la malnutrition.
Notez que cet atelier s'organise avec l'appui financier de ADRA, une organisation internationale qui va aussi appuyer cette prise en charge de la malnutrition pendant 6 mois dans 10 aires de santé de Kenge au Kwango. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que la Ligue des électeurs a lancé hier à Kinshasa la campagne de l'éducation électorale et civique, vivement les élections pour le pouvoir du peuple, et le mot d'ordre par lequel la Ligue organise cette campagne axée sur les techniques et toutes les péripéties qui entourent toute tout processus électoral. Une cinquantaine de formateurs encadrent ainsi plus de 50 observateurs électoraux pour les élections de 2023. Selon le président de la Ligue des électeurs, Paul Sapo, la présidence de la République devra rassurer qu'il y aura réellement des élections libres et honnêtes en 2023. Jeff Ngoy.
Que l'accompagnement devra apporter le président de la République à cette campagne électorale. Aimé Mourola, conseiller juridique du chef de l'État.
C'est pas pour accompagner seulement la Ligue des électeurs, c'est pour accompagner tous les acteurs qui veulent s'engager dans le déroulement des élections libres, démocratiques et transparentes. Ça va dépendre de qu'est-ce que la Ligue voudrait avoir comme accompagnement.
Président de la Ligue des électeurs, Paul Sapou, que l'accompagnement la Ligue attend de la présidence de la République.
Eh bien, en tant qu'exécutif, et chapeautant le gouvernement, je pense que la présidence devrait aider la population congolaise à s'assurer que les élections et de bonnes élections auront lieu. Et dans ce que nous faisons, c'est l'organisation, si vous voulez, de la population à la base qui est le souverain primaire et qui a droit à ce que son droit civil et politique soit de mise et partant son droit aux élections honnêtes.
Qu'est-ce qui sera concrètement fait durant ces assises.
Et aujourd'hui, en prévision des élections, nous faisons le rappel de troupes et la cinquantaine qui sera formée ici, ce sont des formateurs, des observateurs des élections.
C'est une campagne qui va ainsi s'étendre à toutes les provinces du pays.
Actualité internationale.
Nous sommes au Libéria. Le ministre en charge des affaires présidentielles a été suspendu mardi. Nathaniel McGill, un proche du président George Weah, est accusé de corruption par les États-Unis. Le département américain du Trésor avait allégué lundi que le ministre avait notamment reçu des pots de vin lors de la signature des contrats publics. Sont également mis en cause le procureur général du Libéria et celui qui dirige l'autorité portuaire nationale.
L'invité.
Il s'agit du député Kiangi Chamavu, prince, élu du territoire de Walikale au Nord Kivu. Il dénonce un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire de ce territoire du Nord Kivu. Cet élu plaide pour l'implication des autorités compétentes en vue de décanter la situation et améliorer les conditions de détention dans cette maison carcérale. Le député Kiangi s'entretient avec Denise Lukeso.
Prince Kiangi, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment se présentent les conditions carcérales dans le territoire de Walikale?
Oui, en fait, les conditions carcérales dans la prison centrale de Walikale et dans les divers cachots éparpillés sur l'étendue du territoire sont vraiment préoccupantes jusqu'à ce jour. Il suffit de visiter les installations hygiéniques, par exemple, de la prison centrale de Walikale pour se rendre compte de l'état de délabrement très avancé et qui expose les détenus et prisonniers à plusieurs maladies. C'est à peine que le détenu et prisonnier trouve à manger. Par exemple, s'il faut traiter des malades, ce sont les membres des familles des prisonniers qui supportent les soins de santé de leurs membres qui se trouvent être dans la prison. Que donc, c'est une préoccupation importante et je crois qu'il devait interpeller la conscience des dirigeants parce que si ces conditions sont celles-là, c'est que on n'est pas en train de respecter les droits humains, notamment des personnes qui sont détenues. Encore que nombreuses de ces personnes qui sont dans la prison, ils sont irrégulièrement. Voilà qu'on peut passer plus de 6 mois sans qu'il y ait la chambre foraine à Walikale. Et pour qu'il y ait chambre foraine, il faut que des partenaires internationaux interviennent, puissent assister le gouvernement congolais pour que l'auditorat, par exemple, ou alors le tribunal puisse aller à Walikale organiser des audiences pour toutes ces personnes. Et donc, c'est important que le gouvernement congolais s'assume par rapport à la gestion du secteur de justice dans les territoires de Walikale. Sinon, les conditions sont dramatiques et vraiment préoccupantes.
Dans un communiqué que vous avez publié, vous parlez des défis de la justice dans les Walikale. Quels sont ces défis auxquels la justice de Walikale fait face?
On a créé le tribunal de paix. Au chef-lieu de chaque territoire, il va devoir être installé un tribunal de paix. Et aux côtés de ce tribunal de paix, il y a un parquet. Aussi, il y a un auditorat militaire. Mais il faut vous poser des questions sur le fonctionnement de ces trois instances. Il arrive même des moments que les responsables de ces institutions passent beaucoup de leur temps en dehors de Walikale. Ce qui fait que même toutes ces personnes qui sont préventivement détenues passe beaucoup de temps parce que la composition du tribunal pose problème. Que donc, il faut que les animateurs de la justice à Walikale soient appuyés par l'État congolais pour les mettre dans des conditions qui les permettent à bien faire leur travail. Et c'est ce qui fait même que beaucoup de questions qui sont de la compétence des juridictions de Walikale soient traités par d'autres juridictions en dehors des limites du territoire de Walikale.
Cela veut dire quoi?
Malgré la bonne volonté de l'auditeur, en tout cas, ne sait pas contrôler les limites du territoire de Walikale. Je prends l'exemple du groupement Kisimba. Certains cas de personnes habitant le territoire de Walikale, beaucoup de questions sont traitées par l'auditorat militaire de Lubero, pendant que ces questions sont de la compétence de l'auditorat militaire de Walikale. Je prends l'exemple de Luberike Ihana. L'auditorat des garnisons de Goma, des fois, émet des mandats d'arrêt pour prendre les gens dans le Luberique. Par exemple, à Kishanga, on a amené des gens de Luberique pour des questions de limites des terres, des conflits fonciers. Et pourtant, ce sont des questions qui sont de la compétence du Tripé, de Walikale, mais les gens sont amenés ici. Et d'autres personnes qui sont à Pinga sont amenées à Mueso, à Kichanga. Et là, quand vous posez des questions aux responsables des juridictions dans le Walikale, ils se disent qu'ils ne sont au courant de rien. Nous qui sommes élus du coin, nous avons énormément de difficultés de suivre toutes ces questions parce que nous traitons des questions de Walikale, mais en dehors de Walikale.
On voit les dossiers de Walikale être traités dans le Lubero, être traités dans le Massissi. Qu'est-ce que vous pouvez demander et aux autorités judiciaires et au niveau national?
Je crois que d'abord, l'auditorat, par exemple ici à Goma, devait s'empêcher de traiter de telles questions. Et il devait référer toutes ces questions à l'auditorat militaire de Walikale. Pareil aussi pour Lubero. Même si on est limitrophe, c'est pas pour autant que vos compétences s'élargissent au-delà de vos limites. Que donc, je voudrais demander au ministre national de la Justice à bien vouloir s'enquérir de cette question et faire respecter l'ordonnance du chef de l'État en matière de justice.
Honorable Prince Kihangi, Radio Kapi, vous remercie.
Je vous remercie également.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.